La chaussure rouge, communiquer ensemble un état d'esprit qui est en marche tout autour de la planète.
La chaussure rouge en radio. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Pas certain que ce vieux proverbe soit toujours applicable dans les années à venir. Pour cette soirée de la chaussure rouge en radio, pas de poissons, mais des invités en chair et en os qui militent, œuvrent, agissent afin de faire bouger nos politiciens et tous ceux qui restent sourds à cette urgence climatique. Anna, Ophélie et Pauline vont nous expliquer comment elles agissent au quotidien et participent au mouvement de grève pour le climat. Avec nous, il y a Julie, Fatima pour l'assistance technique et Patrick pour la réalisation. Bienvenue à bord. Ça, c'est l'ambiance qu'il y avait le 15 mars dernier à Neuchâtel. On y reviendra tout à l'heure dans la séquence reportage de cette soirée de la chaussure rouge en radio. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Et bonsoir à toutes celles qui sont avec nous. On va prendre dans l'ordre des prénoms. Il y a tout d'abord Anna, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a Ophélie.
Bonsoir.
Et puis il y a Pauline.
Bonsoir.
Bienvenue à toutes, équipage exclusivement féminin ce soir. Et on va parler évidemment de ce mouvement de grève pour le climat, de ces manifestations qui se sont déjà organisées et qui vont encore s'organiser. Et c'est Julie, bien sûr, qui va nous guider tout au long de cette soirée en matière d'interview.
Avec plaisir.
Mais pas que.
Et oui, on parlait de filles, il y a des filles autour de la table. Et c'est aussi une fille, une Suédoise de 16 ans qui a lancé le mouvement. Le 20 août dernier, à la rentrée scolaire, Greta Thunberg fait le piquet devant le Parlement suédois. Elle explique aux journalistes, surpris par sa démarche, qu'elle ne voit pas l'intérêt d'aller à l'école si les politiciens et politiciennes ne font rien pour le climat. La Suède vient de vivre une canicule sans précédent et des incendies de forêt très très violents. Greta Thunberg exige que son pays réduise ses émissions de CO2. Elle appelle à une grève des étudiants pour le climat. Son message est repris par les médias. Elle a depuis inspiré des étudiants du monde entier et continue de faire grève tous les vendredis. Le 15 mars dernier, lors de la dernière grève, plus d'un million de personnes sont descendues dans les rues dans 125 pays. Et ce soir, nous accueillons des étudiantes qui, elles aussi, ratent les cours pour sauver le monde. Alors, merci Anna Ziegler, Pauline Guessa et Ophélie Catin d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes parmi les organisatrices de la grève pour le climat en Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour que les auditeurs et auditrices se fassent une petite idée de qui vous êtes? Est-ce que Anna, tu aimerais commencer?
Oui, alors je m'appelle Anna, j'ai 18 ans, je suis au lycée Blessandrard de la Chaux-de-Fonds et j'ai commencé à m'investir dans le mouvement le 31 décembre 2018 du coup.
Et, résolution pour la nouvelle année?
On peut dire ça comme ça, ouais, c'est une belle résolution.
Et toi, Pauline, est-ce que tu aimerais nous raconter un peu
Alors,
ton parcours?
Moi, je m'appelle Pauline Guessa, j'ai 17 ans, je suis à l'école d'art appliqué à Chaux-de-Fonds également. Et ça a toujours été une question qui m'a beaucoup interpellée, en fait. Enfin, ça a toujours été relativement une évidence pour moi. Mais un peu comme Anna, je me suis investie avec tout ce mouvement. J'ai suivi le mouvement, on peut le dire, ce qui est plutôt pas mal pour le coup.
Et puis toi, Ophélie?
Du coup, je m'appelle Ophélie et j'ai 18 ans et je suis aussi à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds avec Pauline. Et je pense que ça m'a un peu toujours intéressée, un peu toujours interpellée. Mais c'est vrai que là, de voir que je ne suis pas seule à être motivée et qu'on est tout plein, c'est vraiment encore plus motivant.
Ça fait quand même un moment qu'on se rend compte que la planète se réchauffe, qu'on ne peut plus continuer sur cette voie-là. Mais quand même, cet engouement pour cette grève pour le climat, ça a pris une ampleur sans précédent. Qu'est-ce qui a été pour vous le déclic? Est-ce qu'il y a un élément où vous vous êtes dit, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je me bouge? Ophélie, toi, tu voudrais commencer?
Oui, moi, je me rappelle toujours d'un documentaire que j'avais vu à l'école il y a un bon moment qui s'appelle « Home ». Et c'est vraiment un long documentaire avec très peu de paroles. Et après l'avoir vu en rentrant, j'étais déterminée à vouloir changer. Et c'est vraiment parti de là, mais ça fait un bon moment. Enfin, j'avais une dizaine d'années. Et
On avait la co-scénariste de Home il y a 2 mois dans notre émission, justement Pascal Dern. Donc,
ah, super, ça devait être super intéressant. Alors. J'écouterai l'émission du coup. Et du coup, depuis le début de cette année, je suis de nouveau relancée à Bloc. Et puis, enfin voilà, c'est super motivant.
Moi, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours une cause qui m'a vraiment, vraiment touchée. Et ça a toujours été un peu une évidence. Et je me disais, à quand un mouvement un peu des jeunes, vraiment, où c'est les jeunes qui protestent et qui disent que ça suffit, quoi. Et après, il y a eu. Ça s'est un peu enchaîné. Avec Greta, et puis ensuite, la suite, et moi, je me suis dit, c'est l'occasion quoi, de foncer, et puis de montrer aussi qu'on est là. Quoi. Donc j'ai fait partie aussi du truc, voilà. À ce moment-là.
Moi, personnellement, ça faisait un moment que j'étais consciente qu'il y avait un problème qui nous attendait, mais c'est surtout quand Nicolas Hulot a donné sa démission, et que Aurélien Barraud a publié plein de vidéos, plusieurs vidéos ont été publiées d'Aurélien Barraud, que j'ai eu vraiment un déclic. Et je pense que pendant un mois, je déprimais vraiment sec. Et j'ai eu de nouveau une sorte de prise de conscience. Et tout
c'était à la fin de l'année passée, du coup
Je dirais plutôt le début de celle-là, enfin août-septembre, en fait. Mm-hmm. Et ce qu'on nous disait depuis des années, tout à coup, j'ai eu l'impression de vraiment le comprendre et vraiment le percevoir. Et tout à coup, je me suis dit, mais... comment ça se fait qu'autour de moi, les gens sont pas alarmés? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas des gens qui courent dans tous les sens, qui déplacent des montagnes maintenant? Parce que du coup, je la sentais l'urgence et j'ai l'impression qu'il y avait une déconnexion entre quelques personnes autour de moi qui la ressentaient et le reste de la population et surtout le reste des politiciens, en fait. Et peu à peu, nous, on a eu plein de conférences au lycée, dans notre ville, Claire Nouvian, Valérie Cabanès, qui en fait nous ont vraiment apporté des outils concrets et nous ont dit, mais oui, c'est horrible ce qui nous attend, mais en fait, vous avez du pouvoir, vous avez un rôle à jouer si vous vous en servez. Et on n'est pas impuissant. Et du coup, on est plusieurs lycéens, et pas seulement des lycéens, à avoir entendu ces conférences. Et on s'est dit, mais c'est le moment de s'en emparer de ces outils. Et du coup, directement, il y a eu plein de groupes qui se sont créés au lycée. On distribuait des tracts, des flyers à la pause. Et puis, en fait, on voyait qu'il y avait du répondant, en fait. Les gens n'étaient pas indifférents à ça. Alors qu'il y a quelques années, quand on en parlait, c'était un peu... c'est que pour les hippies, c'est seulement pour ceux qui aiment la nature. Là, non, c'était justement... en fait, c'est juste pour ceux qui aiment la vie, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà.
Et du coup, depuis le début de l'année, il y a eu 3 grèves pour le climat. Donc, vous avez fait partie des organisateurs de ces premières grèves, de ces 3 grèves qu'il y a eu. Peut-être que les réponses sont différentes. Qui est-ce qui devrait se lancer?
Alors, pour ma part, je n'avais pas fait celle qui était en fin 2018. Mais en début 2019, du coup, j'avais contacté le directeur, la secrétaire de notre école. Puis j'avais demandé qu'on puisse avoir congé le vendredi après-midi, ou en tout cas que ce ne soit pas sanctionné. Et du coup... j'ai contacté les personnes, on dira, importantes de l'école d'art. Et ça a été accepté, donc on n'a pas été sanctionnés. Et suite à ça, il y a eu un groupe WhatsApp avec les personnes motivées. Puis on était un bon nombre, je sais plus exactement, mais on était un bon nombre à être motivés. Et après, au niveau cantonal, non, j'étais pas dans l'organisation.
Moi, je me suis petit à petit impliquée. Et je compte encore davantage m'impliquer aux prochaines grèves parce que pour l'instant je me suis impliquée, mais c'était un peu plus suivre de loin et avoir vraiment cette intention de s'impliquer, mais sans forcément faire les actes. Et là j'ai bien l'intention fermement pour les prochaines de faire partie de ceux qui font aussi les actes.
Et sinon, moi j'étais le 31 ou le 30 décembre, je sais plus, à Berne. Et là, il n'y avait encore rien du tout dans le canton de Neuchâtel et dans toute la Romandie, en fait, il n'y avait encore rien du tout. C'était que les Suisses allemands qui s'étaient mobilisés. Et quand on a vu justement que les Suisses allemands étaient vraiment gonflés à bloc, on s'est dit, mais il faut absolument qu'il y ait ça en Suisse romande. Et on a parlé dans les différentes écoles quand on est rentré à Neuchâtel. Et de nouveau, il y a des gens, notamment Ophélie de l'école d'art, qui ont saisi l'occasion. Et puis peu à peu, il y a des groupes qui se sont formés. Ça a pris du temps d'expliquer, en fait, parce que nous-mêmes, on ne savait pas exactement dans quoi on s'embarquait. On savait que la cause était juste et que c'était le moment, mais on avait des avalanches de questions, sur notamment les revendications. Et nous-mêmes, on n'était pas forcément au clair sur ces revendications. On ne les partageait pas forcément. C'était vraiment un peu la découverte. Et puis, il fallait quand même rester un peu convaincant. Enfin, on avait envie de convaincre les gens de rejoindre le mouvement. Et c'était
pas facile.
Le 15 mars dernier, justement, 2500 personnes se sont rassemblées à Neuchâtel pour cette manifestation et grève pour le climat. La chaussure rouge est allée y promener son microphone. On vous y emmène. La chaussure rouge. Reportage.
Se rassembler ici, c'est tellement important! C'est tellement important! C'est tellement important qu'on soit ici. C'est tellement important parce que la question climatique et écosystémique est une priorité absolue. Elle passe devant toutes les autres priorités, qu'elles soient économiques, politiques, d'emploi ou autres, parce que le climat et l'écosystème est le cadre dans lequel on peut réaliser toutes nos activités humaines. Sans climat stable, on n'a plus de possibilité d'exercer ni notre économie, ni notre agriculture, ni notre politique, ni nos emplois. Et c'est pour ça que c'est tellement important que la question climatique et écosystémique devienne la priorité absolue à partir de maintenant. Et c'est pour ça qu'on se bat ici. Et aujourd'hui, le message qu'on fait passer à la classe politique avec toutes ces manifestations, avec tout ce mouvement qui est de plus en plus puissant, qui gagne en inertie chaque jour, un peu partout dans le monde, c'est qu'on fait déjà notre part individuelle, mais qu'elle ne suffira jamais, et qu'on a besoin d'actions systémiques, on a besoin d'actions politiques, on a besoin d'un changement global. Nous, on fait notre part, chacun, mais on a besoin qu'il y ait une part globale qui soit faite, et c'est ça notre revendication aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on demande l'établissement d'un état d'urgence climatique dès maintenant. Tout seul, ça ne suffit pas, même si on est beaucoup. Le cumul d'actions individuelles ne suffit pas, même s'il est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'actions globales, d'actions systémiques. Notre message aussi à la classe politique, c'est qu'on n'est pas dans une lutte aveugle contre la classe politique. On a des demandes qui sont claires et on fait l'effet d'une locomotive. Et on a une grande puissance qui est en train de s'accumuler dans ce mouvement, qui peut être mise au service d'un changement qui passe par la politique. Simplement, nous, on ne s'arrêtera pas et il faut qu'ils sautent dans le train maintenant. Et on leur demande des actions courageuses, des actions audacieuses. Et puis, c'est un moment historique aussi parce que, peut-être pour la première fois, des personnes de toutes les générations, des enfants aux anciens, ont la même conscience de ce qui est en train de se passer et sont concernés par ça. Et encore une fois, ça concerne tout le monde. Donc c'est une urgence qui est bien au-delà de toutes les contingences politiques, de toutes les orientations personnelles, idéologiques ou autres. Et c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Donc pour une fois, c'est même plus une question de choix. Ce n'est même plus est-ce qu'on a envie de le faire ou pas, c'est qu'on doit le faire. Il y a une nécessité absolue qui s'exprime dès maintenant. Et c'est pour ça qu'on n'a plus le temps d'attendre et que les changements doivent arriver tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Donc c'était ça, le 15 mars dernier à la place du Seillon.
Non, sur la place du marché.
Du marché, voilà. Je suis nul en géographie neuchâteloise, vous l'aurez constaté, et pourtant, je ne devrais pas. C'est un vieux réflexe de chaudefoignier. On poursuit cette soirée en compagnie de nos invités. Anna, Pauline et Ophélie sont avec nous, et à l'interview avec Julie.
C'est assez incroyable quand même cet engouement. On a vu qu'il y avait plus d'un million de personnes dans les rues du monde entier le 15 mars dernier, mais finalement, les grèves se répètent. On se dit, est-ce que l'action va retomber. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de monde. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Est-ce que le fait que ce soit les jeunes, la génération qui dit aux politiciens « pensez à nous, pensez à demain, faites quelque chose », est-ce que là, le fait que le mouvement, que les revendications viennent des jeunes, joue quelque chose dans ce succès mondial?
Déjà, si je peux me permettre de réagir, je pense que, étant donné que c'est des jeunes, au début, ils avaient un peu cette méfiance de se dire « oui, mais on va être sanctionnés, on va être nos parents ». Enfin, ils vont dire quoi si là, on sèche pour une question comme ça, si c'est pas des familles qui leur ont toujours dit « oui, mais vous savez, le climat, il faut faire attention ». Je pense que beaucoup n'avaient pas forcément cette conscience et... Maintenant qu'ils voient que de plus en plus de jeunes y vont et que de plus en plus de jeunes osent aller s'affirmer dans les rues comme ça, je pense qu'ils suivent aussi ce mouvement en ayant la réflexion de se dire finalement, c'est notre cause. Et je pense qu'ils sont aussi plus intéressés avec les grèves, d'une grève à l'autre, d'une manif à l'autre. Et du coup, non seulement avec les cours qu'il y a pu avoir dans certaines écoles, les conférences aussi, enfin, genre au lycée Blaise Cendrars, je pense qu'ils ont eu pas mal de choses. Nous, à l'école d'art, on a rien eu. Voilà, je me permets de le dire.
Il y a Lucien Vimin qui était venu nous faire une conférence l'année dernière. Et je pense que, en tout cas, Pauline et moi, ça nous a beaucoup motivés aussi pour après garder contact avec lui aussi.
Tout à fait.
Et sinon, je pense que, notamment, la reconnaissance un peu de la communauté scientifique sur toutes nos mobilisations, ça a été hyper bénéfique parce que, comme l'a dit Pauline avant, il y a beaucoup de jeunes qui au début se disaient « Non mais, est-ce qu'en fait ce qu'on fait ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est pas un peu de la délinquance? Est-ce que, on n'a pas des risques même d'avoir un casier ?» Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements et de craintes. Et aussi, comme l'a dit Pauline, ce qui a été assez fort, je trouve, c'est que d'être tous ensemble, des jeunes, vraiment des jeunes, on a pu aussi, du coup,
se motiver les uns les autres.
Oui, et puis aussi visionner notre avenir ensemble.
Visualiser l'avenir.
Exactement, visualiser notre avenir ensemble et se dire, à quoi il va ressembler. Et justement, d'être entre nous, ça a pu nous faire réagir et puis nous faire réaliser que ce sera nous, en fait, les adultes de demain, et ce sera nous, les adultes de demain, qui vivrons la catastrophe climatique.
On écoutera d'ailleurs dans la deuxième partie du reportage, aux alentours de 9h moins le quart, les intervenants qui étaient sur cette scène à la place du marché. Il y a effectivement d'autres générations qui étaient présentes et qui soulignent le message que l'on fait ressortir à l'instant.
Justement, tu me parlais, Anna, des revendications politiques. Tu disais au début, elles ne sont pas forcément très claires. Là, ce mouvement maintenant est mondial. Donc, quelles sont les revendications au niveau mondial, au niveau national? Et là, vous qui êtes engagée dans le canton de Neuchâtel au niveau cantonal, j'imagine que les choses à demander sont un peu différentes selon la région du monde dans laquelle on se trouve.
Alors, au niveau international, je ne les connais pas exactement, mais je pense qu'elles ne doivent pas beaucoup différer de celles qu'on a en Suisse. Donc, au niveau national, ça a été décidé par consensus que, pour l'instant, il y avait déjà neutralité du bilan de gaz à effet de serre net d'ici à 2030 en Suisse. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est juste respecter ce que les accords de Paris ont proposé. Et ensuite, il y a aussi, au niveau cantonal, nous, on reprend en fait cette revendication. Vu qu'en Suisse, donc, les émissions de gaz à effet de serre, elles ont diminué, mais en fait, c'est juste parce qu'on délocalise en Chine ou ailleurs dans le monde. Et du coup, il faut toujours prendre ça en compte. Je sais pas s'il y en a d'autres.
Déclarer l'urgence climatique, ça c'était une qui a été... D'ailleurs, ça a été appliqué notamment à Bâle.
Dans plusieurs cantons.
Dans plusieurs cantons, ça a fait écho. Et
C'est notre revendication actuelle cantonale, du coup. Il y a eu dans plusieurs cantons. Et puis, nous, plus précisément à Neuchâtel, on a fait deux motions populaires. Une première, justement, sur la justice climatique. Et puis, on parle de plusieurs aspects dans le canton, comme l'alimentation, l'énergie, les transports. Et on demande vraiment à ce qu'il y ait de nouveau une nouvelle conception des priorités et que ces projets qui sont maintenant urgents passent avant d'autres. Et puis, notre deuxième motion populaire, c'est sur la transparence de toutes les institutions qui dépendent de l'État de Neuchâtel. et du coup de leurs investissements en fait. On aimerait savoir si nos impôts vont en fait du coup dans l'extraction de fossiles, alors que justement maintenant c'est
dans les énergies fossiles, donc faut... gaz, pétrole.
Exactement. Et par exemple à l'UNDI, l'université de Neuchâtel, ça fait depuis un moment qu'ils essaient d'avoir une transparence, de savoir dans quoi leur argent est investi, et puis à chaque fois il n'y a pas eu de réponse.
Notamment les caisses de pension de l'État.
Ouais, tout à fait. Et du coup je pense que maintenant, en tout cas à Neuchâtel, on a envie de savoir où va notre argent.
Qu'est-ce que ça va changer si on déclare l'urgence climatique ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais qu'est-ce que ça pourra changer pour les politiques ?
Bah, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui vont se rendre, enfin qui se rendent peut-être pas compte de l'importance. Enfin, on consomme et on fait plein de choses sans forcément se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Bah, justement, l'énergie grise et la pollution en général, si je peux mettre cette étiquette-là. Et je pense qu'avec toutes ces grèves, il y en a aussi beaucoup qui s'en rendent compte déjà. Et pour ceux qui s'en rendaient déjà compte, ben, de voir qu'ils sont pas seuls et de bouger tous ensemble. Et on peut partager des astuces et vivre, on va dire, encore plus écologiquement que ce qu'on faisait déjà avant.
Et sinon, la déclaration de l'État d'urgence climatique, en soi, c'est pas vraiment un concept qui existe, ça veut rien dire, mais de le déclarer, ça permet à nos institutions politiques, en fait, de justement le créer, en fait, cet état d'urgence climatique. Qu'est-ce qu'ils entendent, enfin, comment ils visualisent cet état d'urgence, comment est-ce qu'ils vont repenser leur loi, leur fonctionnement, en fait. Donc voilà, c'est en train de... En proposant l'état d'urgence climatique, on leur propose justement d'inventer cet état d'urgence climatique en dialoguant avec nous.
Ce frère en Suisse, donc, il y a le canton de Vaud, Fribourg et Bâle-Ville qui ont déclaré l'urgence climatique. Il y en a d'autres ? J'en oublie ?
Non, c'est un début, on va dire.
Il y a pas de Delémont aussi ?
Tu dis le canton du Jura ? Ah, la ville de Delémont ?
Peut-être la ville de Delémont, oui. Okay. On va vérifier ça, effectivement. Je vous propose de marquer une petite pause sous forme d'un autre reportage sur un autre sujet. Les 13 et 14 avril prochains aura lieu à Fribourg un tout premier festival du genre, qui est un éco-festival, qui s'appelle The Green Wave. Et pour en parler, nous avons reçu, par l'intermédiaire de la connexion Skype dans le courant de la semaine dernière, les deux investigatrices, les deux organisatrices, Estelle et Éléonore, qui vont effectivement vous présenter ce Green Wave Festival de Fribourg. Les 13 et 14 avril prochains aura lieu à Fribourg le tout premier éco-festival en ces lieux, en cette ville. Il est organisé par Éléonore et Estelle. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous vous êtes lancé dans cette organisation de ce tout premier éco-festival en ville de Fribourg avec un but bien précis. Ce sont de proposer une palette de solutions locales du canton de Fribourg pour un avenir durable et un mode de vie éco-responsable.
Oui, tout à fait. Donc on a lancé cette idée de festival après avoir créé notre association, l'association The Green Drop, donc la goutte verte en français, qui a pour but de sensibiliser la population fribourgeoise et la population suisse à l'importance de réduire son impact environnemental, avec une philosophie bien singulière qui met en avant en fait les petits gestes individuels de chacun. Chaque goutte compte, chaque petit geste, chaque changement qu'on fait au quotidien a un impact sur l'environnement qui nous entoure.
Alors ce festival, il a lieu sur 2 jours. Il est sur un site bien particulier à Fribourg, c'est le site de Blue Factory. J'imagine que ce lieu n'a pas été choisi au hasard.
Non, alors ça a été pour nous assez stratégique de choisir Blue Factory. C'est un site qui abritait avant anciennement l'usine et la fabrique de la bière Cardinal. Cardinal a été racheté par Feldschlösschen et le site a été abandonné. Et depuis quelques années maintenant, ils travaillent à revitaliser le site. C'est devenu un véritable quartier d'innovation et de technologie. Et dernièrement, donc il y a un petit peu plus d'une année, ils ont engagé un manager culturel. Donc Martin Schick, en fait, nous a ouvert les portes du site.
On jette un petit coup d'œil sur le programme. On ouvre les festivités dès 9h le samedi et il y a énormément de choses à voir. Hein. J'ai regardé un petit peu, il y a de la réduction des déchets, du gaspillage alimentaire. Enfin, non pas qu'on va en gaspiller, mais on va en parler. Hein. Et de l'alimentation durable, entre autres.
Alors, le programme, il est très varié. Il y a des conférences, des tables rondes, il y a des films qui sont montrés. Il y a aussi des actions sur le site de Blue Factory. Donc, il y a un parcours de vélo. Il y a aussi un clean-up qui est même organisé le samedi après-midi. Ce qui est très important, il y a l'entrée qui est libre. Donc, elle est gratuite avec une collecte à la fin, à la sortie ou bien après chaque activité.
Une question encore concernant l'organisation de ce festival. On dit souvent et on remarque souvent que ce genre d'organisation laisse un petit peu pas mal de déchets derrière elle et a tendance à surconsommer ou à provoquer une surconsommation. Et vous, justement, vous essayez d'organiser ce festival justement dans le bon esprit pour éviter ça.
Oui, tout à fait. L'idée du festival, c'est vraiment d'être cohérent avec les valeurs qu'on met en avant, donc l'éco-responsabilité et la durabilité. En faisant en sorte que le festival en lui-même ait un impact environnemental et climatique le plus réduit possible. Et puis après, ce qui était assez vital pour nous, c'était de pouvoir calculer le bilan carbone du festival. Donc on a collaboré avec Climate Services, qui est une entreprise basée sur le site de Blue Factory, et qui va nous calculer en fait le bilan carbone du festival par après.
Alors pour se rendre à ce festival à Fribourg, ce fameux week-end des 13 et 14 avril, la meilleure solution, eh bien, c'est le train, puisque vous êtes à peine à 10 minutes de la gare.
Enfin, comme information, il n'y aura pas de parking de voiture pour les visiteurs sur le site de Blue Factory. Donc on a pris cette partie pour vraiment avoir une journée sans voiture. La première recommandation, c'est justement de venir en train. C'est, comme vous dites, c'est à 10 minutes de la gare. Après, il y a quand même un bus qui s'arrête, c'est le bus numéro 5. Qui s'arrête à Fribourg, passage du Cardinal, et puis après vous êtes à 2 minutes.
Et ça aura donc lieu les 13 et 14 avril prochains à Fribourg, dès 9h les deux jours, donc de 9h à 23h le samedi et de 9h à 17h le dimanche 14 avril. Merci à toutes les deux d'avoir pris quelques instants pour nous présenter ce festival.
Merci à vous, merci de l'invitation. Oui.
Et puis on espère que vous allez rencontrer un succès énorme de manière à ce que ça vous motive pour revenir l'année prochaine.
Ah, merci. Ça c'est sûr.
C'est tout ce qu'on nous souhaite, effectivement.
Et on reviendra sur ce festival du 13 et 14 avril à Fribourg dans notre agenda. On continue notre soirée en compagnie de nos invités et de Julie.
Moi, je voulais revenir sur ces revendications politiques. Anna, tu me racontais que tu faisais partie d'une délégation qui a rencontré des conseillers d'État dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. Comment s'est passée la rencontre ?
Alors oui, alors on n'est pas du tout des représentants ni quoi que ce soit, mais effectivement, on devait être 4 à aller rencontrer Laurent Favre, donc conseiller d'État pour l'environnement. Et il y avait aussi Monique Amarefti, qui s'occupe, elle, de l'éducation. Et donc, on s'est vus cet après-midi. Je dirais que c'est quand même assez positif. Déjà, si on n'avait pas fait ces grèves et ces manifestations, ben, on n'aurait jamais pu, en fait, aller les voir. Enfin, jamais pu. On n'aurait pas pu aller les voir. On n'aurait pas été au château de Neuchâtel aujourd'hui. Et ce qui est vraiment très positif, c'est que on peut justement commencer véritablement un dialogue et peut-être même une coopération, ce qui nous donne de l'espoir. Alors on voit qu'on se sent encore assez décalé en fait, avec peut-être certaines fois leur conception de ce qui doit être fait, à quelle vitesse, quelle est l'urgence en fait. Je dirais qu'on se sent encore pas tout à fait écouté, mais ça va de bon train et je dirais que c'est quand même très positif.
Tu peux pas trop nous parler du contenu des discussions, mais est-ce que c'est plutôt eux qui vous ont invités ou c'est vous qui avez demandé un rendez-vous avec eux ?
Alors oui, c'est eux qui nous ont invités. En fait, ça a été décidé au niveau national. Nous-mêmes, on ne demande pas forcément à voir les politiciens, mais eux, du coup, nous ont demandé à nous voir, oui.
On voit qu'il y a quand même une grande sympathie hein, de la part des politiciens pour ce mouvement comme des étudiants. En revanche, il y a quand même certains détracteurs. Dans le canton du Valais, il y a Christophe Darbelay qui a interdit la manifestation en Valais. Il y a certains membres de l'UDC qui ont quand même dit que vous étiez un peu des naïfs, incohérents, qui mangeaient du tofu importé hystérique. Du Brésil, hystériques. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs ?
Que ça n'a absolument aucun sens et que je pense que tous ceux qui nous traitent d'utopistes radicaux, avec des idées complètement farfelues, ben c'est eux qui sont... Enfin, ça risque d'être un peu trop violent, du coup, mais c'est eux qui sont complètement déconnectés, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on voit que la jeunesse est en marche, on fait le lien. La jeunesse, c'est quoi? C'est l'avenir, c'est les futurs adultes. Ben, à la rigueur, faut peut-être penser à un moment donné à les écouter. Je sais pas, surtout quand on voit qu'ils sont autant à se mobiliser en Suisse et dans le monde. Faut arrêter d'avoir des idées trop conservatrices comme ça, sinon on n'évolue pas.
Ouais, il y aura toujours des gens contre et puis on perdra plus de temps à les convaincre, eux, de rejoindre le mouvement plutôt que nous d'avancer de notre côté en ramassant les gens qui sont déjà partants et en agissant nous de notre côté.
Je me demandais si vous aviez, parce que du coup c'est un mouvement mondial, mais s'il y avait un petit peu un guide, des guidelines, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour éviter qu'une manifestation comme ça dégénère dans des manifs? Il y a toujours des gens qui viennent un peu, enfin qui ne s'intéressent pas forcément au sujet, mais qui veulent un petit peu des fouteurs de troubles, des fêteurs de troubles, pardon, pas des fouteurs. est-ce que vous avez des consignes pour un petit peu protéger aussi les manifestants, pour gérer tout ça, quoi?
Bon, alors déjà, au niveau national... ça avait été voté par consensus qu'on se voulait vraiment pacifiste. Hein. Il n'y a aucune violence.
On ne casse pas les vitrines des McDo.
Non, pas du tout. Oui, il y a toute une charte qui a été écrite et acceptée par tous ceux qui étaient présents pendant ces réunions nationales, qui sont ouvertes à tout le monde d'ailleurs. Et ensuite, pendant les manifestations, alors, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas tellement eu de débordement dans les différentes villes. Il n'y a pas vraiment eu de violence. Il y a toujours normalement un service d'ordre qui s'occupe de gérer un peu, justement, s'il y a des problèmes qui surgissent. Jusqu'à maintenant, en tout cas, nous, à Neuchâtel, on n'a vraiment pas eu. C'était à chaque fois vraiment très bon enfant. Et
vous devez demander une autorisation de manifester, quand même.
Oui, on doit demander une autorisation de manifester. Nous aussi, du coup, à Neuchâtel, on n'a jamais eu de problème avec ça. En plus, on peut manifester gratuitement, ce qui est quand même vraiment un super... c'est super pour nous, du coup, nous qui sommes étudiants et qui n'avons pas forcément de revenus.
C'est un droit, le droit de manifester.
Ouais, tout à fait. À Genève, par exemple, ils doivent débourser quand même 400 francs par manifestation, et du coup, ça rend quand même la mobilisation plus difficile.
Ah ben, il faut couvrir les frais de certains conseillers d'État. Hein.
Il ne fallait pas dire ça comme ça.
Faut citer le nom, hein.
Mais moi, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, très honnêtement, j'ai pas l'impression que l'énergie de ces jeunes, ce soit ça, en fait. Je pense qu'on est là pour vraiment pour un changement, pour de l'entraide, et ça se ressent à travers les manifestations. Alors bon, moi, j'ai pratiquement manifesté seulement à Neuchâtel, mais j'ai eu l'impression que c'était aussi le retour des autres villes, en fait. Les gens sont pas là pour casser, pour faire n'importe quoi, les gens sont là pour la vie.
C'est aussi parce qu'on n'est pas contre quelqu'un, on est pour avancer ensemble. Et du coup, on n'a pas quelqu'un ou quelque chose à démolir. Bien que, bien sûr, il y a des choses qui sont à éviter, mais pas de là à les casser.
Le mois passé, nous avions inauguré, Julie, une toute nouvelle chronique, le journal des bonnes nouvelles, dont voici, si on est prêt du côté des petits papiers qu'on a déposés sur la table. Non, je parlais de moi, c'est bon, j'ai attrapé le bon. Je vous propose ce fameux journal des bonnes nouvelles, deuxième édition.
La chaussure rouge en radio. Le journal des bonnes nouvelles.
Après les cantons de Fribourg et Bâle-Ville, c'est au tour du canton de Vaud de déclarer l'urgence climatique.
En effet, le législatif vaudois a soutenu une résolution déposée par le Vert libéral Laurent Miéville. Le texte voté mardi indique que le Grand Conseil lui-même reconnaît la nécessité d'atténuer le changement climatique. Il demande en outre que soient traités en priorité des sujets touchant au climat, en se basant sur les rapports du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, pour établir de futures mesures de lutte pour le changement climatique. C'est un succès des étudiants et des grèves pour le climat. À Paris, sans transition, à Paris, Lyon ou Bordeaux, les cimetières urbains troquent ciment et gravier contre arbustes et gazon.
Plusieurs centaines de mètres carrés de tapis de gazon 100% bio ont déjà remplacé les graviers dans les cimetières parisiens dans le courant du mois de mars. D'ici 2 à 3 décennies, les 20 cimetières devraient tous verdoyer et rejoindre ceux de Strasbourg, Versailles ou Bordeaux. De quoi attirer la faune, les promeneurs et contribuer à lutter contre les dérèglements climatiques. Un signe de progrès, insectes pollinisateurs, abeilles solitaires, papillons, oiseaux nicheurs, fouines, écureuils d'Europe et même hérissons sont aujourd'hui plus nombreux dans les cimetières français. À Ivry, les renards et les renardeaux ont également fait leur réapparition. Mercredi 27 mars, le Parlement de Strasbourg a entériné à une large majorité la fin dans l'Union européenne de certains objets en plastique à usage unique, début 2021 au plus tard.
Une alternative devra être trouvée aux assiettes, couverts, coton-tiges, paille, touillettes à boissons, tiges de ballons de baudruche, même les ballons de baudruche, non ? Bon, ces produits à usage unique, déjà interdits dans certains pays, seront bannis de l'Union européenne. L'interdiction vaut aussi pour les plastiques oxodégradables, aux récipients alimentaires et aux gobelets en polystyrène expansé. Le texte renforce aussi le principe du pollueur-payeur, notamment pour l'industrie du tabac, qui devra couvrir à partir de 2023 les coûts de collecte et de recyclage des filtres à cigarettes, qui s'attaquent fortement à l'environnement, puisqu'il s'agit du deuxième produit en plastique à usage unique le plus jeté dans l'Union européenne. Le Sikkim est un état du nord de l'Inde, situé dans l'Himalaya, qui est un pionnier en matière d'écologie.
Le Sikkim est devenu en quelques années le premier état bio au monde. À partir de 2003, les autorités locales ont décidé d'interdire les produits chimiques au sein de l'agriculture. Les débuts de cette transition se sont révélés compliqués puisque une partie des 66 000 fermiers ont connu une baisse de leur récolte et une augmentation des prix. Mais grâce à l'appui du gouvernement régional, les rendements se sont améliorés. Aujourd'hui, les 750 km² de terres cultivées que compte cet état sont certifiés biologiques. Une conversion qui a permis au Sikkim d'augmenter la fertilité de ses sol, de préserver la qualité de son eau et de renforcer sa biodiversité. Ce combat écologique prouve qu'une cohabitation est possible entre politique et habitants lorsqu'il s'agit de préserver l'environnement et sa biodiversité.
Quand il sera grand, elle me demandera pourquoi y'a plus de poissons dans la mer. Je veux dire quoi, que je savais pas ou que j'en avais rien à faire. Et quand il demandera papa, est-ce juste pour le bois que vous avez rasé le poumon de la planète? Je vais respirer avec quoi? J'aurai l'air d'un irresponsable, incapable, un coupable au comportement inexcusable. Une nature bousillée, un monde de CO2. Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux? Ça commence par le respect, et l'une des choses à faire, c'est un commerce équitable pour eux, nous. Et notre terre. Les grands discours c'est bien, mais les petits gestes c'est mieux. La différence on doit la faire aujourd'hui, car on le peut. Vas-y qu'on se consomme, qu'on se consume. Tronçonne, tronçonne, allume, allume. Mais que fais-tu si notre futur se retrouve entre marteau et l'enclume? Si ça brûle et ça se consume, et que notre terre ressemble à la lune, que fais-tu si notre futur se retrouve entre le marteau et l'enclume? Dites-moi pas que vous le voyez pas, vous le sentez pas, ce changement, ne me mentez pas. Le climat part en vrille, vous attendez quoi? Combien de Catherine nous faudra-t-il pour accepter ça? Je veux pas marcher sur le sol d'une mer asséchée en me disant j'aurais dû peut-être trier mes déchets. À mes yeux c'est une erreur, aux yeux de nos enfants un péché. Tout le monde crie au drame mais personne n'a l'air pressé. Je veux pas voir le jour où l'eau aura la valeur du pétrole. Où le pétrole ne sera plus mais on paiera encore pour ses bémols. Je suis pas devenu monsieur écolo, c'est clair. Mais avec ce que je sais aujourd'hui je peux faire mieux que hier. Vas-y qu'on se consomme, qu'on se consume. Tronçonne, tronçonne, allume, allume. Mais que fais-tu si notre futur se retrouve entre le marteau et l'enclume? Si ça brûle et ça se consume, et que notre terre ressemble à la lune, que fais-tu si notre futur se retrouve entre le marteau et l'enclume? Mais que fais-tu si notre futur se retrouve entre le marteau et l'enclume? Si ça brûle et ça se consume, et que notre terre ressemble à la lune, que fais-tu si notre futur se retrouve entre le marteau?
On n'a qu'une terre. Cette chanson signée Stress, nous avons l'habitude de laisser le choix des pauses musicales à nos invités. On n'a pas manqué à cette tradition ce soir. Qui avait choisi cette chanson de Stress ?
Alors, c'est moi. Je vous lis un petit explicatif
très
de mon choix. Alors, en fait, la première fois que j'ai écouté cette chanson de Stress, elle m'a paru assez évidente dans le sens où je me suis dit, mais cette chanson, elle va coller à tout le monde. Même ceux qui sont pas forcément intéressés à l'écologie ou qui sont pas forcément sensibles à ces questions climatiques vont pouvoir être touchés par ça parce qu'il a des paroles qui sont quand même assez prenantes où tu te dis, ah ouais, bah en fait le gars a raison, pourtant il prétend vraiment pas être un écolo, il le dit, je sais pas, enfin bon, entre nous ça veut dire quoi être un écolo, mais il dit je suis pas un écolo et qu'est-ce que je vais donner à mes enfants plus tard, et je trouve que ça c'est assez évident.
Et cette chanson a gardé tout son sens même si elle a été récupérée par une grande surface.
Alors je viens de l'apprendre tout à l'heure et j'avoue que bon, ben c'est la faille, il y a des failles.
Eh oui. Personne n'est parfait et puis il faut bien manger. Alors, suite de cette soirée, en compagnie de nos trois invités et de Julie, qui poursuit cette séquence interview, on va peut-être gentiment passer sur des sujets peut-être plus concrets, un petit peu savoir ce que nos invités font un peu au quotidien pour améliorer les choses.
Oui, alors les filles, c'est bien beau de marcher dans la rue et de sécher les cours, mais bon, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que... Tu me parlais d'action...
On aurait dit ma prof.
Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre quotidien ? Peut-être qu'est-ce qui a changé ces derniers mois, ces dernières années ? Ouais, quelles sont les petites actions que vous faites dans votre quotidien pour l'environnement ?
Alors, je commence, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà réellement changé mon mode d'alimentation. Et ça, je pense que c'est un impact très important. Donc, j'ai diminué énormément la viande, quasi arrêté. Les produits d'origine animale aussi, ou du moins du bio, et voilà. J'ai vraiment passablement changé mon mode de vie. Donc j'ai même, c'est peut-être un peu extrême ma façon de présenter les choses, mais j'ai même un peu changé ma façon de penser, ma façon d'aborder les choses. Me dire aussi que j'ai la possibilité de prendre davantage de temps pour faire les choses. Comme par exemple, ne pas prendre la voiture. Bon, moi j'ai pas de voiture, donc j'ai pas l'âge d'avoir le permis, mais ne pas prendre la voiture pour aller jusqu'à tel et tel endroit, et marcher ou prendre le bus, ça prend un peu plus de temps, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est aussi toute une philosophie de se dire, ben voilà, maintenant j'accepte de prendre plus de temps pour aussi plus de plaisir et plus de bonheur. En tout cas, moi j'ai plus de plaisir à faire attention.
Et par rapport à l'alimentation, manger moins de viande, manger bio, est-ce que tu as dû convaincre ta famille, tes parents ? Comment eux, ils ont réagi ? Ou est-ce qu'ils pensent comme toi et ça a été facile ?
Alors, je sais qu'ils vont m'écouter, donc je vais faire attention. ma maman, elle est très, très ouverte à ce que je peux lui proposer par rapport à ça. Et ça, c'est juste une petite merveille, parce que maintenant, quand je retourne chez ma maman le week-end, ben, à manger, elle a fait attention de choisir... un peu des menus végétariens, même des fois un peu végétaliens, enfin voilà. Ça tendrait vers un changement comme ça. Mon papa, ça a été un peu, mais ça s'est un peu imposé dans sa vie comme ça. Et par contre, étonnamment, ma tata et son chéri, qui sont des gens très ouverts aussi, ont eu un peu plus de réticence. Alors bon, maintenant c'est un peu étape par étape, même si ils ont conscience de ces choses climatiques, mais ça, ils ont un peu une réaction de monsieur et madame tout le monde, j'ai l'impression des fois.
Et ton papa, j'ai pas compris, lui c'était déjà engagé.
En fait non, pas très engagé, mais lui ça a toujours été un peu comme quelque chose qu'il avait fait, et c'est comme ça quoi. Enfin pas toujours, mais ça il a rencontré son ami qui est énormément engagé pour la ville de Lausanne. Et qui l'a beaucoup fait changer dans sa façon de s'alimenter. Et ça, ça a été drastique pour mon père, en tout cas.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient aussi déjà... Enfin, qui faisaient déjà très attention. Enfin, qui essayent de prendre de la région, du bio. Donc, c'est vrai que, pour ma part, j'avais déjà une bonne base de départ. Avec une sœur aussi qui fait très attention. Et ce que j'ai changé, je sais pas si c'est que je m'en rends pas compte ou si c'est que vraiment j'ai pas fait de changement, mais franchement j'ai beaucoup de peine à voir ce que j'ai changé. Après c'est vrai que bien sûr j'essaie de faire plus attention à encore plus de choses, et un peu pareil que Pauline quoi, Mais ça, c'est que je vois les choses tellement grandes que j'aimerais pouvoir gravir l'Everest avant même de pouvoir marcher. Et du coup, je vois vraiment des choses énormes, créer des événements au niveau cantonal, national. Et puis, c'est super compliqué à mettre en place quand on est un tout petit groupe. Mais je sais pas, certainement, je fais des choses, mais j'arrive pas à m'en rendre compte.
Puis moi, je dirais aussi que j'ai changé tout mon mode d'alimentation et de consommation. Enfin, maintenant, je viens plus dans un magasin sans penser vraiment à tout ce que j'achète. Je regarde chaque étiquette, vraiment, mais tout. Je peux pas penser à autre chose, en fait. Donc, ça impacte énormément ma vie de tous les jours.
Mais comment t'achètes tes habits? Parce que c'est assez difficile quand on commence de regarder les étiquettes des habits.
Ouais. On achète rien. C'est trop triste, c'est horrible.
C'est nos tricots.
Aussi. Mais surtout, en fait, j'ai commencé à aller bien plus dans les friperies. Les magasins de seconde main, par exemple à Chaux-de-Fonds, il y a Emmaüs, ça coûte rien du tout. Et on découvre en fait des pièces qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis c'est aussi... en fait, on achète moins de vêtements. Puis on fait aussi plus attention à quels vêtements en fait, on a vraiment envie d'acheter, dans lesquels on se sent vraiment bien. Donc c'est aussi redécouvrir, je dirais, une qualité de vie parce qu'on essaye d'être au plus proche de nos volontés et de notre bien-être. Mais je dirais que ça n'a pas non plus été évident parce que même si mes parents étaient assez convaincus de la cause écologiste dans les fêtes, quand il faut vraiment consommer, acheter, c'est beaucoup plus dur d'être proche de ses convictions.
À pouvoir les appliquer effectivement dans le milieu dans lequel on évolue. On va retourner quelques minutes sur la place du marché, c'était le 15 mars dernier donc à Neuchâtel. On va retrouver l'ambiance qu'il y avait et puis surtout tous les intervenants qui sont passés l'un derrière l'autre sur cette estrade et qui ont saisi le micro. Et vous verrez qu'il n'y avait pas que des jeunes. La chaussure rouge. Reportage.
On va faire un moment maintenant avec un micro ouvert. Donc j'invite vraiment toutes celles et ceux qui ont envie de partager leur expérience, qui ont envie de partager quoi que ce soit sur cette thématique, à venir nous rejoindre maintenant ici, au pied de la fontaine.
Bon, mesdames, messieurs, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Donc le sujet n'est pas drôle du tout, la glace fond. Le niveau de la mer monte, on constate de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes, des vagues de chaleur, de sécheresse. Donc oui, la crise climatique, elle est là, c'est maintenant. Et qui est responsable? Ce sont certainement les pays pollueurs comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, mais pas nous, la petite Suisse propre. On est beaucoup trop petits pour avoir une quelconque influence sur cette crise. Non. La Suisse est seulement le 130e pays du monde au niveau de la superficie, mais si la place financière suisse était un pays, la Suisse serait 6e le plus grand pollueur en termes d'émissions de CO2 au monde. Et donc, pour mettre fin à la catastrophe climatique, la Suisse devrait ramener ses émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2030. C'est bien là notre demande. Et c'est pourquoi les grandes banques suisses doivent sortir des énergies fossiles. Que voulons-nous? Eh bien, nous voulons la justice climatique, ce qui signifie que les principaux responsables du changement climatique et de la destruction de la planète devront en assumer la responsabilité. Et cela inclut les grandes entreprises aussi bien que nos banques. Donc je nous le demande, que voulons-nous? La justice climatique. Et quand la voulons-nous? Maintenant.
J'ai un message pour vous. J'ai un message pour vous que j'aimerais vous transmettre de la part de toute la communauté scientifique. Ces dernières semaines, les scientifiques de langue française, les scientifiques de langue allemande de tout le pays, et en particulier de la Suisse, ont signé un manifeste de soutien à tout ce que vous faites actuellement. Un manifeste de soutien aux jeunes pour le climat, un manifeste de soutien au mouvement des étudiants pour le climat. Parce que nous, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille, qu'on démontre des choses, qu'on fait des analyses, qu'on fait des modèles, qu'on obtient des résultats. J'ai l'impression que enfin, nous les scientifiques, nous ne prêchons plus dans le désert, parce que vous êtes là aujourd'hui.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est encore la communauté universitaire qui s'adresse à vous. Martine Rebete a donné un message important. D'abord, bravo. Ensuite, tenez bon, continuez. Et troisièmement, vous avez aussi entendu, n'oubliez pas d'aller voter et faites voter. Donc ça, vraiment, vous avez le pouvoir, il faut l'utiliser. Pas tous les pays ont ce privilège.
Plus de lobby, moins de... en message de soutien. Le mouvement des grands-parents pour le climat, qui est né il y a à peu près 5 ans, un mouvement suisse-roman, a fait sienne la devise de cette devise de la sagesse amérindienne que nous avait relayée Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Vous êtes jeunes, mais nombre d'entre vous ont 18 ans ou auront 18 ans dans les mois qui suivent. Les prochaines élections fédérales sont l'occasion de donner un signe général, une indication forte aux personnes qui ne décident pas, alors qu'elles sont là pour ça, à Berne, que les choses doivent changer et que c'est urgent. Ne laissez rien passer. Nous continuerons à vous soutenir avec bonheur.
Voilà pour ces intervenants sur cette place du marché le 15 mars dernier lors de cette manifestation pour le climat et grève pour le climat. Moi, j'ai noté quand même deux choses. C'est la communauté scientifique qui se dit « Enfin, on ne prêche pas dans le désert ». Je trouve que c'est assez fort comme message. Et puis surtout, c'est cette reprise de cette citation de Saint-Exupéry qui dit qu'on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants. Ça devrait faire réfléchir pas mal de gens. Et pourtant, c'est pas tout jeune hein, comme expression. Saint-Exupéry, ça date un petit peu quand même, non ?
Me trompe. Mais dessine-moi un mouton, ouais, ça reste quand même.
Ça reste quelque chose d'important.
Absolument.
On arrive gentiment à la fin de cette soirée. Est-ce que, Julie, tu avais encore quelques sujets bien chauds, bien précis à évoquer avec nos invités ?
Oui, alors on a parlé des actes que Anna, Pauline et Ophélie ont mis en place dans leur vie pour avoir plus de cohérence, pour plus respecter leurs valeurs. Et je me demandais s'il y a des objectifs, des choses que vous n'arrivez pas encore à mettre en place ou à atteindre, mais des grands rêves ou des projets pour l'avenir.
Alors, déjà, moi, je pense qu'on en a toutes ici, parce que ben, c'est un peu ce qui rythme nos vies. Mais... personnellement, enfin moi, c'est je parais peut-être pas comme ça, mais c'est d'opter pour une vie déjà beaucoup plus simple et beaucoup plus proche de nos sources et de nos racines. Du coup, je donne l'exemple d'une bergerie sur une montagne en toute simplicité avec deux chèvres et deux moutons, trois poules, peut-être un ruisseau. Et ça me fait rêver. Et je me dis que à ce moment-là, c'est un moment où je pourrais me permettre de renouer avec ce quoi on s'est tant éloigné. Et du coup, ça, ce serait à la rigueur mon projet pour l'avenir, que je compte bien d'ailleurs appliquer un jour quand je prendrai le temps de le faire et que j'en aurai le courage.
C'est beau. Bon, on te souhaite plein de courage pour y arriver.
Bah, merci.
Ophélie ?
Oui, bah bien sûr, on a tous des projets et tous des objectifs à atteindre. Et j'aimerais, si on voit plus loin, pouvoir voyager quelques années. Mais vraiment, que ce soit loin ou pas, et découvrir plein de manières de vivre et plein de manières de faire pour être le plus proche de la nature et le plus simpliste et de moins en moins dépendre aussi de la société. Mais si je regarde à une plus petite échelle, j'aimerais déjà simplement pouvoir prendre le temps de me cuisiner, enfin de me faire à manger tous les soirs, ou bien de faire attention à ce que j'utilise tous les jours, et prendre vraiment plus le temps de réfléchir à ce que je fais plutôt que d'agir et regretter après.
Et toi, Anna, est-ce que tu aimerais préciser quelque chose ?
Ça ressemble un peu à ce qu'elles ont déjà dit, mais c'est vrai que je rêve aussi plutôt de simplicité, d'un contact vraiment avec la nature, avec les saisons qui passent, vraiment plus ressentir... qu'en fait, on fait entièrement partie de notre écosystème. Et aussi, je rêve aussi un peu de resserrer vraiment les liens avec tout le monde autour de moi, mes familles, mes amis. Et ça, c'est aussi ce qui va nous aider à surmonter, je pense, la crise climatique. Donc voilà, c'est aussi très simple.
Et le côté numérique dans tout ça, parce que finalement, c'est un outil avec lequel vous êtes né, que vous exploitez certainement au quotidien. Est-ce qu'il a sa place dans cet avenir que vous décrivez à l'instant ?
Moi, j'ai déjà supprimé certaines applications qui me prenaient énormément de temps. Et je sais pas où est parti ce temps maintenant et qu'est-ce que j'en fais. Mais j'ai déjà supprimé certaines applications. Après, c'est vrai que j'ai quand même toujours mon attel avec moi et je pense que je pourrais pas faire sans maintenant.
Non, mais c'est un outil après. On va pas non plus remettre au placard tout ce qu'on a inventé. Cela dit, il faut peut-être doser.
Bah oui, mais il y a des outils que j'utilise pas forcément non plus. Enfin, j'ai pas besoin d'un marteau au quotidien.
C'est vrai, c'est vrai. Donc vous, la polémique de la 5G là, qui a lieu en ce moment, vous la voyez comment ?
Ah ben moi je m'en fous, j'ai pas d'abonnement de Natel de toute façon, donc...
Ça règle le problème.
Moi je suis clairement contre, enfin, au bout d'un moment on voit vraiment le progrès, et on se rend pas compte qu'on a dévié, qu'on est plus dans le progrès, mais on est juste en développement technologique, alors qu'en fait le progrès ce serait justement d'aller ailleurs, de savoir aussi être un peu indépendant, et...
Ben justement, moi, c'est ce que je disais par rapport au temps tout à l'heure, c'est que on prend même plus le temps de prendre le temps. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on veut tellement que ça aille vite et tellement qu'on ait nos données tout de suite et tout, alors que tout va tellement déjà si vite. Et c'est aussi ce qui cause autant de burn-out et autant de problèmes dans notre société. Enfin, elle est complètement dissociée de toutes ces données. Et c'est se raccorder à ça, et la 5G, ça va... Enfin, le but ultime, ce serait de se raccorder à tout ça pour réussir à recréer un peu une... Enfin, une osmose, c'est un peu tout des grands mots pour... voilà, mais...
Resserrer les liens sociaux.
Resserrer les liens sociaux et reconnecter avec cette nature, quoi. Et du coup, la 5G, ça va complètement à l'opposé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter... L'évolution, c'est pas que 5, 6, 7 G.
Donc ce qu'on peut dire, en fait, c'est que d'avoir un outil qui nous sert au quotidien, dans certains cas, oui, mais il faut qu'il soit dosé et qu'il ait un sens, finalement, qui reste à taille humaine.
Oui, on sait même plus pourquoi, en fait, on l'a vu, cette 5G.
Non, alors clairement, hein, c'est ceux qui vous la vendent qui la veulent. Hein.
Et merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment chouette d'avoir un regard frais sur ces questions... d'environnement, pour avoir vos expériences personnelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je voulais juste revenir sur la prochaine grève pour le climat qui aura lieu le 6 avril. Racontez-nous un petit peu, ça aura lieu aussi à nouveau dans le monde entier, comment ?
Alors le 6 avril, donc en fait ce sera une manifestation nationale. Alors peut-être qu'il y en aura ailleurs dans le monde, mais en tout cas nous on se coordonne au niveau national.
Là c'est un samedi.
Oui c'est un samedi, donc manifestation pour que ça puisse aussi être accessible en fait à ceux qui se reconnaissent pas dans la grève. Mm-hmm. Donc vraiment que ça puisse toucher le plus de personnes possible, ceux qui n'ont pas les possibilités au niveau de leur travail. Et à Neuchâtel, ce sera à la Chaux-de-Fonds, enfin dans le canton de Neuchâtel, ce sera à la Chaux-de-Fonds cette fois. À 14h, rendez-vous à la place de la gare. Et en fait, on va partir un peu sur une autre dynamique que les manifestations et déambulations précédentes. Parce que là, on se rend compte que c'est génial, à chaque fois, on est de plus en plus. Le mouvement grandit à chaque fois. Les gens ont envie d'aller manifester pour le climat, ont envie d'être présents, d'apporter leur contribution. Et ils déambulent. Et c'est génial parce que ça resserre les liens et ça affermit les convictions. Mais au final, il y a rien de concret, rien de tangible qui en ressort. Et du coup, cette manifestation du 6 avril, surtout à Lausanne, et nous, on essayera aussi de faire pareil à Neuchâtel, on appelle à l'action, au concret. Donc, par exemple, fabrication de bombes à graines, ramassage d'ordures aussi pendant la manifestation. À Lausanne, ils vont planter un arbre sur la Riponne. Enfin, voilà. On aimerait bien pouvoir canaliser toute cette énergie, toute cette volonté d'agir pour en faire vraiment du concret. Typiquement aussi pour inviter les gens à participer à la construction de ce mouvement, à ce qu'ils nous rejoignent dans les groupes de travail, parce que c'est pas facile, on doit écrire des textes, on doit demander plein de trucs à plein de gens, et juste qu'on soit plus nombreux à être actifs, voilà.
Merci beaucoup. Pauline, est-ce que t'aimerais ajouter quelque chose ?
Non, enfin, pas spécialement, mais si on donne l'occasion, c'est peut-être un peu ridicule, mais juste, l'écologie, c'est pas un passe-temps, en fait. Maintenant, c'est une fatalité. On a les chiffres, on a les nombres, on a les faits devant nous. Et maintenant, c'est à nous d'agir et de se donner cette dernière chance de pouvoir prendre soin de la vie jusqu'au bout. Voilà.
Et s'il y a des gens qui veulent du coup vous rejoindre, vous aider, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, comment est-ce qu'ils font pour vous contacter ?
Alors, y a un compte Instagram qui s'appelle « Climat, c'est toi ». Et si jamais vous pouvez envoyer un message privé, c'est tout des figures de la manifestation répertoriées avec un panneau noir où il y a écrit « Climat, c'est toi » autour de leur tête, pris en photo avec en dessous si tu déroules des informations sur le climat. Là, vous pouvez sans autre contacter.
Sinon, il y a encore la page Facebook officielle du mouvement en Suisse allemande et en Suisse romande. Donc là, de nouveau, il y a très fréquemment des messages et on y répond, on reconduit les gens.
C'est Grève pour le climat suisse en français, ouais, c'est ça?
Exactement, mm-hmm. Grève pour le climat suisse. Et il y a le site internet, aussi climatstrike.ch.
Surtout ça, hein. Surtout le climat, c'est toi, c'est secondaire, mais surtout ouais, ce que vient de dire Anna. Donc, Grève pour le climat.
Sur Facebook, sur Instagram, sur juste une page internet officielle aussi. Voilà. Et puis juste venir à la manifestation et puis s'approcher de nous et du coup être actif, quoi. Ouais.
Venez nombreux, très très nombreux.
Merci à toutes d'avoir été avec nous durant cette soirée. On va se quitter avec notre traditionnel agenda qu'on attaque tout de suite. Avec, pour vous rappeler, les 13 et 14 avril prochains, ce fameux Green Wave Festival qui aura lieu à Fribourg. Renseignements possibles sur la page Facebook et sur le site the-green-wave.ch. Deux conférences d'ailleurs seront données par Lucien à l'occasion de ce festival. Tout d'abord le 13 avril à 13h30. Donc ça se passera dans l'espace multiculturel Blue Factory, là où a lieu ce fameux festival. Changer de voiture et d'appareil pour le climat vraiment, point d'interrogation. C'est donc à 13h30 et vous retrouverez Lucien également le lendemain, le 14 avril à 14h30, toujours dans cet espace multiculturel Blue Factory, cette fois-ci pour une autre conférence, celle intitulée « Pourquoi manger local, c'est loin d'être idéal ».
Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un message sur notre page Facebook La Chaussure Rouge en radio pour nous annoncer que le 13 avril, à nouveau le 13 avril, il y a le Monstre Plastival. C'est un festival organisé par Greenpeace Vaud. Un événement qui veut attirer l'attention sur les conséquences qu'ont les plastiques à usage unique sur l'environnement. Il mentionne que Nestlé a créé un monstre de plastique dans les océans et doit enfin proposer des alternatives aux emballages à usage unique. Donc cet événement fait partie d'un tour qui va commencer à Bâle, donc ça aura lieu en Suisse romande, à Lausanne le 13 avril, sur la place de la navigation à Ouchy de 14h à 20h30.
Et puis un autre événement organisé cette fois-ci par Amnesty International.
Oui, on encourage le pasteur Norbert Vallée. Norbert Vallée, c'est un pasteur qui a apporté son aide à un requérant d'asile togolais, c'était un de ses amis, dont la demande d'asile avait été refusée. Et puis pour avoir aidé ce requérant d'asile débouté, il a reçu une amende de 1000 francs avec sursis, pour laquelle il a fait recours. Et donc le 11 avril, il sera entendu par les autorités neuchâteloises et une action de soutien, de solidarité est organisée pour lui. Donc le rendez-vous, c'est le 11 avril, c'est un jeudi à 8h30 sur la place de la Collégiale. Et ensuite, tous les gens qui seront là vont accompagner le pasteur à son audience pour lui montrer qu'on le soutient, que c'est normal d'aider les personnes dans la détresse et que la justice ne doit pas poursuivre les gens qui ont agi par solidarité.
On va terminer avec trois dates à retenir pour les Ripper Café, car on aime bien vous les annoncer. Alors, ils ne sont pas tout de suite. Hein. Le plus proche qu'on a trouvé, c'est le 6 avril prochain, de 10h à 16h, à la rue du Midi 6. Ça se passe à Bay, B-E-X. Le prochain, tout proche de nous, eh bien, c'est le café FRC de Bossens, le 11 mai, de 10h à 15h. Ça se passe dans le local de la Voirie, route de l'Industrie 20. Et puis, du côté d'Yverdon, il y aura aussi Ripper Café, le I-Ripper Café, le Y. Même d'ailleurs Ripper Café, ce sera le 26 mai prochain de 9h30 à 15h. C'est sur la route des Chantorans numéro 1, donc à Yverdon-les-Bains. Nous voici donc à la fin de cette soirée de la Chaussure Rouge en radio estampillée avril 2019. Merci à toutes d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce soir. On espère vous voir nombreuses et nombreuses aux prochaines manifestations le 6 avril. Et puis nous, on va se quitter tout à l'heure avec une chanson d'Alioz, Julie, mais c'est pas pour rien.
Non, c'est une chanson qui s'appelle Conquistador et vous allez voir, c'est une référence à certains produits que nous retrouvons un peu partout et ça me fait penser à cette initiative, une Suisse...
Sans pesticides.
Pour une Suisse libre de pesticides.
Elle allait dire sans armée, je sais pas, non, sans pesticides.
Donc l'initiative en fait a abouti et on a collecté 100 000 signatures et oui. Donc la population devra voter bientôt. Donc il y a une grande campagne pour faire connaître cette initiative et puis pour motiver les gens à voter oui.
Merci, on ne va pas manquer ça, puis on en reparlera bien sûr dans les soirées de la Chaussure Rouge Radio. Très très belle nuit à vous tous, on vous laisse en musique tout à l'heure aussi avec les Heures du Feu. Profitez-en encore quelques minutes durant, on laisse l'antenne ouverte. Merci à Ophélie, merci à Anna et merci à Pauline. À bientôt.
Merci à vous,
avec plaisir.
Merci.
À bientôt, salut.
À bientôt.